Bonjour à toutes et à tous. Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio pour une nouvelle balade musicale en compagnie de Christophe à la technique. Le temps des festivals est revenu avec la belle saison. Le festival d'Auvers-sur-Oise, la cité des peintres, est l'un des plus prestigieux. La 41e édition s'est ouverte depuis le 8 mai avec le OFF pour irriguer la musique classique dans les 15 villages de la vallée du Sauceron. 5 concerts gratuits ont été donnés par de jeunes talents. Il faut rendre hommage au président Didier Hamon et au directeur fondateur Pascal Escande qui développe ses actions vers de nouveaux publics tout en assurant une très grande qualité du festival pour sa 5e décennie. Les premiers concerts ont vu se produire de remarquables chanteurs comme le contre-ténor Jakub Joseph Orlinski, la mezzo-soprano Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter et les sopranos Marie Oppert et Patricia Petitbon qu'on ne présente plus. Le vendredi 10 juin à 21h, en l'église Saint-Denis de Méry-sur-Oise, ce sera la nuit du trio, un concert qui va être présenté par Christian Morin, avec qui nous avons la chance d'être en duplex. Bonjour Christian Morin.
Bonjour mon cher ami, enfin on peut s'appeler, je vous appelle Christophe.
Mais oui, vous pouvez, je vous autorise
bien sûr. Bonjour, merci de votre invitation.
Mais c'est un très grand plaisir de vous accueillir et d'entendre votre voix sur IDFM Radio dans notre balade musicale. Évidemment, on ne vous présente plus. Vous êtes la voix radiophonique de l'émission Tous Classiques, le matin sur les ondes de Radio Classique. Mais vous avez bien d'autres talents, si vous me permettez. Vous êtes dessinateur humoristique après avoir fait l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, clarinettiste de jazz. Vous avez reçu le prix Sidney Bechet de l'Académie du Jazz. Vous avez joué avec de très grands musiciens comme Claude Luther, Claude Bolling, Milt Buckner, Joe Jones et même Sergio Mendes et évidemment beaucoup d'autres. Comédien, vous avez travaillé avec des réalisateurs comme Nadine Trintignant, Édouard Molinaro, Pascal Thomas et des metteurs en scène comme Jean-Laurent Cochet. Vous avez été et vous êtes animateur de radio, mais vous étiez sur Europe 1, RTL, RMC, à la télévision, TF1, France 2, France 3 et La 5. Et puis vous avez rejoint Radio Classique en 2010. Avez-vous quelque chose à ajouter, Christian ?
Non, sinon qu'on dirait, vous savez, que je me trouve dans une assemblée, au milieu d'une assemblée où on fait une espèce d'éloge au moment où les personnes disparaissent.
Mais non.
Non, mais c'est très émouvant de l'entendre, j'allais dire, de son vivant, en quelque sorte. Bon, c'est un parcours complètement atypique, mais avec grâce auquel je me suis régalé toute ma vie. J'ai cette chance d'avoir eu ces déséquilibres finalement qui ont réussi à faire de ma vie une vie équilibrée. Quand je m'ennuyais un petit peu dans un secteur, je pouvais aller me promener dans l'autre et ainsi évoluer tranquillement et faire en sorte d'être toujours de bonne humeur. Donc ça, c'est déjà très agréable.
Ça, c'est une qualité énorme et qu'on apprécie tous. Maintenant, je vais me permettre un clin d'œil avec une œuvre que vous connaissez, du moins je le crois, Christian Morin. C'était bien sûr un Américain à Paris de George Gershwin. Michael Tilson Thomas était à la tête du Philharmonique de New York. C'est une musique que vous connaissez bien, Christian.
Ben, figurez-vous que c'est une musique que j'avais choisie lorsque j'ai été invité par le directeur de l'époque, Sébastien Lancrenon, à Radio Classique, à venir m'exprimer sur cette antenne avec une certaine appréhension. Et puis j'ai rencontré quelqu'un que j'ai qualifié depuis 12 ans maintenant. Je vais attaquer ma 13e saison au mois de septembre. Francis Drezel est devenu mon décorateur musical avec lequel j'ai pu travailler pendant toutes ces années. Il me régale en programme. C'est un immense spécialiste de la musique classique, il connaît tout, il apporte des anecdotes, il me guide, il m'a guidé pendant les deux ou trois premières années, et cet Américain à Paris permettait d'associer un petit peu ce que j'avais fait dans ma vie, de ne pas être trop marqué par la musique classique typique, et ce mélange de musique classique à la musique de jazz, de George Gershwin, eh bien, m'a permis d'évoluer sur les ondes avec toujours de bonne humeur. Parce que vous savez qu'un indicatif est très important. Quand vous commencez une émission, c'est l'entrée en matière, c'est l'entrée sur scène, avant de rencontrer le public que sont les auditeurs, et ensuite tout doit couler naturellement jusqu'à la fin de ce rendez-vous quotidien désormais, et je le répète, depuis une douzaine d'années. Je m'en réjouis, je suis très heureux d'ailleurs.
Mais c'est une musique qui me met en joie aussi, cet Américain à Paris.
Qui n'a pas toujours été apprécié par les grands classiques.
C'est vrai.
Gershwin lui-même voulait accéder justement à ces gens-là, à ce milieu classique. Il avait beaucoup travaillé. Alors, j'ouvre une parenthèse pour le dire, parce qu'on a oublié une chose, c'est que Gershwin est mort alors qu'il avait 36 ou 37 ans. Vous imaginez la suite de sa carrière s'il n'avait pas eu cette tumeur au cerveau qui l'a emporté. Mais c'était un homme de génie extraordinaire, parce que la Rhapsodie in Blue, par exemple, qui était une commande du chef d'orchestre blanc Paul Whiteman, a été composée dans un train. Les premières idées lui sont venues et il était en retard. Son frère l'a appelé en lui disant « il faut se dépêcher ». Oui, mais j'ai beaucoup de travail, etc. Mais la Rhapsody in Blue est déjà annoncée dans le journal. Donc, je crois qu'il a travaillé sur le sujet pendant 15 jours, 3 semaines. Vous dire quand même le génie qu'il était.
Mais oui, il y a beaucoup de génies qui sont morts très jeunes, comme Schubert, Mozart, par exemple.
Exactement.
On se dit, mais si Mozart avait eu 75 ans, si Schubert avait eu le même âge, et Gershwin, on se dit, mais que de chefs-d'œuvre, on aurait aimé les entendre. Mais enfin, bon.
Alors, en même temps, Christophe, peut-être aussi que ça aurait été, que la source aurait été peut-être tari beaucoup plus tôt, on ne sait pas.
C'est
possible. On ne sait pas ce que ça peut, parce que Mozart, pour prendre cet exemple, lui a commencé tellement jeune et avec de telles qualités. C'est vrai que dans la simplicité, Mozart est quand même resté le maître.
Nous allons revenir maintenant à ce magnifique festival d'Auvers-sur-Oise, si vous le voulez bien, Christian Morin, et plus particulièrement à la Nuit du Trio, ce concert que vous allez présenter demain, vendredi 10 juin, à 21h, à l'église de Méry-sur-Oise. Alors comment va se dérouler la soirée, Christian Morin ?
Alors, très simplement, le présentateur va arriver, va annoncer le premier trio, en l'occurrence le trio Hélios, qui jusque-là est un trio qui se compose normalement, je dirais, avec un violon, Camille Fauthenot au violon, Raphaël Jouan au violoncelle et Alexis Gournel au piano. Puis, nous aurons un deuxième trio, le trio Filia, le trio Filia, composé d'un violoncelle avec Lisa Strauss, Théo Hould à l'accordéon, un peu plus inattendu, et François Pinault-Benoît au violon. Puis ensuite arrivera un trio qui est une heureuse rencontre, c'est le trio BAE, composé de Bella Schulz, Anna Olivia, Amaya Faria et Ekaterina Kornishina, pardon. Ce trio, c'est la première fois qu'ils se réunissent pour, en l'occurrence, pour ce festival d'Auvers-sur-Oise. Et ensuite, la très bonne idée, c'est que tout cela va se terminer par une œuvre qui va être créée mondialement pour la première fois par ces 10 musiciens réunis grâce à Régis Campo, le compositeur, avec une pianiste japonaise, Yoko Yamada. Et j'attends avec impatience, comme le public, je pense, la réunion de ces trois trios qui vont nous apporter ces satisfactions très très heureuses.
Alors on va peut-être évoquer tout de suite le Filia Trio. qui va se produire donc entre les deux, entre ces, les deux autres trios.
Tout à fait.
C'est un trio qui est soutenu par le Festival d'Auvers-sur-Oise depuis 2019 et qui est actuellement en résidence. Et en plus, Disco Vert, donc, qui est le label du festival et qui a pour mission de soutenir les jeunes artistes, vient de produire son premier enregistrement, Madness, un disque qui est sorti depuis le 21 avril à l'occasion du concert de lancement. C'était à la salle Cortot à Paris. Je vous propose, Christian Morin, d'écouter un premier extrait, La Folia, d'Antonio Vivaldi par le Filia Trio. La Folia de Vivaldi, revisité sur IDFM Radio par le jeune Filia Trio, un ensemble très original formé par trois camarades du CNSM de Paris, l'accordéoniste Théo Hould, la violoncelliste Lisa Strauss et le violoniste François Pinault-Benoît, qui ont décidé de poursuivre une aventure commune et très originale dans le monde de la musique classique. Christian Morin, qui est notre invité aujourd'hui, sur IDFM Radio, est-ce que c'est une trahison cet arrangement avec un accordéon d'une sonate en trio de Vivaldi ?
Je ne pense pas, peut-être que Vivaldi lui-même aurait été intéressé. J'en profite pour dire à vos auditeurs que la Folia que nous venons d'écouter, Vivaldi, sera au programme du Filia Trio. Pour revenir à l'accordéon, je ne pense pas, vous savez, c'est un instrument, moi j'ai toujours imaginé, je ne sais pas à quelle époque l'accordéon a été réellement inventé ou à partir de quelle époque il a réellement existé, j'ai toujours imaginé que c'est peut-être un instrument qui a été inspiré par l'harmonium, avec les soufflets, mais en se disant, tiens, on va peut-être avoir un harmonium portable pour donner l'accordéon. Mmh. Écoutez, je trouve toujours très intéressant, vous savez, l'accordéon a été joué par des grands maîtres avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach, notamment à l'accordéon, qui sont tout à fait remarquables. Donc, est-ce qu'il y a... Oh, je ne pense pas. Je pense que les compositeurs comme Bach ou Vivaldi auraient été très séduits. Chaque compositeur a quand même une oreille qui traîne un petit peu et quand il y a une nouveauté, ça peut toujours les intéresser, ou alors à moins d'être de fort mauvaise humeur.
Et on a un exemple qui est particulièrement intéressant, c'est celui de Jean-Sébastien Bach qui a réorchestré les concertos de Vivaldi.
Tout à fait, et je dirais tant mieux, parce que peut-être que grâce à Jean-Sébastien Bach, nous avons découvert Vivaldi. Vous savez que Vivaldi est apparu quand même dans les années 20 sur des premières partitions, et puis il est devenu la vedette et l'artiste connu que l'on connaît davantage aujourd'hui à partir de 1940 ou 1945
à peu près. C'est vrai. Alors, il va être temps de faire gagner des places à nos auditeurs pour ce concert que vous allez présenter, Christian Morin. Il y a 12 places à gagner pour le concert du 10 juin. Et pour cela, les personnes intéressées doivent envoyer un email à l'adresse suivante, billetterie@festival-auvert.com ou simplement par téléphone au 01 30 36 77 77 en indiquant leur prénom, leur nom, leur numéro de téléphone, le nombre de places et préciser dans le mail qu'elles ont gagné des places via le jeu sur IDFM Radio. Et maintenant, chers auditeurs, c'est évidemment à vous de jouer. Christian Morin, dans ce premier disque publié par le label du festival d'Auvers-sur-Oise, Disque Auvert, le trio a également enregistré la toccata de Serge Prokofiev et le trio numéro 1, opus 1, en mi bémol majeur de Beethoven. Et c'était vraiment le tout début du catalogue de Beethoven, qui était très jeune à ce moment-là. Je crois qu'on était en 1793-1795. À l'époque, c'était la coqueluche des salons viennois. C'était un magnifique pianiste, magnifique improvisateur et qui n'était pas sourd à ce moment-là.
Et je dirais, mon cher Christophe, si je peux vous interrompre une seconde,
bien sûr,
qu'il valait mieux être dans les salons viennois et écouter la musique de Beethoven en 1793 plutôt qu'à Paris au moment de la Révolution, à cette époque de la terreur.
À ça, je vous crois, effectivement. Et nous allons d'ailleurs nous faire plaisir en écoutant le trio Filia dans le Scherzo. C'est le troisième mouvement du trio numéro 1, opus 1 de Beethoven. Thank you. Beethoven sur IDFM, troisième mouvement du trio numéro 1, opus 1, par le Filia Trio. Dans votre carrière de clarinettiste de jazz, Christian Morin, avez-vous déjà été accompagné par un accordéoniste? Je pensais à Richard Galliano ou Vincent Perani, voire même cet excellent Marcel Azzola.
Eh bien, figurez-vous que j'ai travaillé, j'ai donné deux ou trois concerts avec Marcel Azzola. J'ai rencontré Marcel grâce à Marc Fossé, qui a été pendant 18 ans le guitariste de Stéphane Grappelli. Et j'ai moi-même travaillé avec Marc pendant une dizaine d'années, en trio puis en quartet. Et nous avons donné deux concerts avec Marc et avec Marcel Azzola, qui était un accordéoniste extraordinaire. Alors lui, voilà, on parlait d'accordéon tout à l'heure, dans le domaine du classique. À l'instar de Richard Galliano, d'ailleurs, qui a enregistré des pièces classiques.
De Bach, notamment, mais pas
oui,
seulement.
De Bach, vous avez raison, tout à fait. Et ce sont des musiciens exceptionnels, doués, avec une virtuosité fantastique. Et puis, ce sont des gens très généreux. Je connais un petit peu Richard Galliano, mais j'ai connu Marcel Azzola beaucoup plus proche. Et puis, nous avons beaucoup, beaucoup parlé, bavardé. Bien évidemment, je lui ai posé des questions sur l'homme qui était Jacques Brel, qui l'a accompagné, comme Barbara d'ailleurs. Et c'était un homme délicieux, charmant, très discret et, par rapport au grand talent qu'il avait, très humble.
Et parmi les très nombreux musiciens que vous avez côtoyés, j'en ai cité quelques-uns en vous présentant, Christian Morin, quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné ou bien avec qui l'entente musicale a été quasiment immédiate?
Alors, l'entente musicale, elle a été par rapport à une admiration que je lui portais, puisqu'il a été très longtemps aux côtés de Sidney Bechet. C'est Claude Luther, qui est devenu par la suite un ami. Il y avait aussi le deuxième grand clarinettiste français, qui était Maxime Sory. Tous les deux, nous avons beaucoup, beaucoup joué ensemble. Moi, j'étais bien sûr le jeune bordelais qui montait à Paris, mais j'ai été accueilli à bras ouverts. Et puis, nous avons donné de nombreux concerts avec Claude Luther, avec son orchestre. Autrement, j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de musiciens américains avec qui on a eu le plaisir, alors qu'on était âgés de 17, 18, 19 ans, avec le quartet que j'avais monté à Bordeaux, alors que j'étais encore étudiant, on a eu la chance de travailler avec ces musiciens américains qui nous ont beaucoup appris, et là aussi leur humilité nous a frappés. Et c'était des gens qui avaient travaillé à l'orchestre de Count Basie, mais je pense notamment au trompettiste de Count Basie, Buck Clayton, avec qui j'ai beaucoup joué, qui parlait français très très bien, ce qui était plus agréable pour le lien amical et musical. Et puis il y a eu d'autres musiciens, Sergio Mendes que vous citiez tout à l'heure en début d'émission. Sergio Mendes est devenu un très très bon ami, car c'est un homme en plus qui est doublé de l'amour de la musique avec l'amour de la table française. Donc, c'est un grand gastronome. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui à l'Olympia, puis dans deux ou trois soirées chez des amis communs. Non, ce sont des rencontres formidables. Quand je vous disais tout à l'heure que la vie que j'ai eue était bordée de bonheur ou de jolies fleurs joyeuses, c'était ça. C'était ça. Ça a été la même chose grâce aux Beaux-Arts. J'ai pu rencontrer un jour un homme pour lequel j'ai une admiration profonde toujours. C'est le dessinateur Sempé.
Ah oui, bien sûr.
Et puis j'étais très ami aussi avec Albert Uderzo, le papa d'Astérix, avec Goscinny, et puis mon ami le regretté Cabu aussi.
Qui adorait le jazz aussi, Cabu.
Ah oui, Cabu était un admirateur de jazz, surtout les grandes formations, les grands orchestres, il adorait ça. Et j'ai des dessins, je me souviens d'une soirée donnée en 2013-2014, où il était venu au Petit Journal Montparnasse, où je jouais, et j'ai les dessins chez moi, qu'il m'a offert, parce qu'il avait l'habitude de dessiner discrètement. Il mettait son carnet sur son genou, assis, et il éclairait son dessin en dessinant avec la lumière du portable. Mais il faut voir les dessins de Camus qui sont extraordinaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir une exposition très inattendue de 15 ou 16 dessins, des inédits de Camus. Alors, où on voit que Camus était un immense dessinateur, c'est une série de dessins qu'il a fait sur la rafle du Veldiv. Ah. Et cette exposition va commencer au mois de juillet jusqu'au mois de novembre au musée de la Shoah à Paris.
Ah oui, 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 dans le quatrième arrondissement, je
tout
crois.
Tout à fait, oui.
Tout à fait, juste à côté, en face de l'île Saint-Louis, oui, c'est ça. Rue Geoffroy Lanier, je crois, voilà.
C'est une exposition qui est extraordinaire, je vous assure, allez voir cette exposition, parce que les dessins sont vraiment tout à fait remarquables. Et inattendu, car on oublie qu'en dehors des caricatures, Cabu était un immense dessinateur qu'il faut découvrir au travers de tout ça. Alors il avait fait l'école Estienne, il a suivi le parcours que tous les élèves avaient à l'époque, et c'est-à-dire que l'étude du dessin d'art, le fusain, le croquis rapide, etc. L'exposition, je jette un tout petit coup d'œil, c'est du 1er juillet au 7 novembre.
Bien voilà, c'est dit, je pense que nos auditeurs feront bien effectivement d'aller voir, de suivre cet excellent conseil, parce que c'était vraiment un dessinateur remarquable, et en plus, effectivement, c'est une histoire qui nous touche tous.
Et j'aimais beaucoup son rire, il avait un rire de gamin. Quand il explosait, quand il éclatait de rire, alors on a suivi des concerts ensemble. Non, c'était un homme délicieux. Voilà donc que je vous disais que toute cette vie a été bordée de jolies fleurs, de bons moments et de bonne humeur.
Et de nombreuses passions, donc, si je comprends bien.
Tout à fait, oui, oui. Écoutez, s'il n'y avait pas quelques passions dans la vie, je pense qu'on s'ennuierait un tout petit peu.
Je le crois. Alors on va revenir à nos trois musiciens du trio Filia, qui ont un répertoire très vaste, qui va du baroque au contemporain. Et notamment, le trio collabore depuis quelques années avec Régis Campo, qui est un compositeur ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome et qui a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est le compositeur 2022 du Festival d'Auvers-sur-Oise.
Tout à fait.
Alors, on va entendre « Tweet », une partition de Régis Campo, composée spécialement pour le trio Filia, et c'est une commande du Festival d'Auvers-sur-Oise.
Thank you.
Tweet de Régis Campo, le compositeur contemporain de l'édition 2022, c'est-à-dire de l'opus 41 du festival d'Auvers-sur-Oise, par le trio Filia, qui est un jeune ensemble en résidence, publiant son premier CD Madness sous le label du festival d'Auvers-sur-Oise, et se produira demain, vendredi 10 juin à 21h, à l'église Saint-Denis de Méry-sur-Oise. Ce sera la nuit du trio, un concert présenté par notre invité, Christian Morin. Christian Morin, vous êtes aussi, comme je l'évoquais en début d'émission, un illustrateur de talent. Vous avez publié un livre intitulé « Notes légères » chez First Edition, un recueil de vos histoires préférées de la musique, des anecdotes sur la vie de compositeurs et des musiciens, les coulisses des concerts, illustré avec finesse et humour. J'aimerais beaucoup que vous fassiez plaisir à nos auditeurs et évidemment à moi-même. Vous pourriez nous raconter une ou deux de ces anecdotes?
Alors, je pensais que vous alliez me demander de faire un dessin.
J'aurais aimé.
Mais à la radio, c'est toujours très difficile.
Oui.
Oh, les anecdotes, écoutez, il y en a... En fait, ce livre, je fais une illustration tous les mois de toutes ces anecdotes depuis 6 ans maintenant, pour une revue qui s'appelle la revue Notre Temps. Et j'ai récupéré tous ces dessins pour en faire un livre, comme vous disiez à l'instant, Notes légères, drôle d'histoire de la musique classique. Il y en a mille et une que je préfère, il y en a beaucoup. Par exemple, ce que disait Henri Chanson de l'opéra, du chanteur d'opéra. Un chanteur d'opéra, c'est un type qui reçoit un coup de poignard dans le dos et qui, au lieu de saigner, se met à chanter une demi-heure. Vous avez aussi l'anecdote de Rossini qui fait passer une audition à un jeune chanteur. Le jeune chanteur commence à chanter et Rossini lui dit « Vous devriez chanter beaucoup plus vite ». Et il lui dit, le jeune chanteur lui dit « Si vous pensez, maître, que ce serait mieux ?»« Non, non, mais ça durerait beaucoup moins longtemps, par exemple. » Autre anecdote qui est arrivée en 1989 lors de l'opéra de Beethoven, le seul opéra de Beethoven, Fidelio. Ça se passe au Châtelet, Laurine Mazel dirige, et dans l'acte 2, il y a un appel de la trompette qui doit intervenir, c'est écrit dans la partition, qui doit venir impérativement de la coulisse. Et au moment où on attend la trompette, Mazel fait signe, rien du tout. Et en coulisses, il y avait un régisseur qui disait simplement « Je viens de virer un type qui voulait jouer de la trompette en plein spectacle. Heureusement que j'étais là. » Et le trompettiste n'est jamais intervenu. Je pense que Laurine Mazel, ce soir-là, a piqué une colère énorme. Alors, une quatrième anecdote à propos d'opéra, ça se passe à Toulouse. Et vous savez que dans Tosca, à la fin, l'héroïne se suicide en se jetant dans le Tibre, du haut de la tour Saint-Ange, après la mort de son amant, et après avoir poignardé surtout le chef de la police, Scarpia. Alors en 1946, Scarpia était donné à Toulouse, au Capitole. Le rôle de Scarpia était tenu par le père de Claude Nougaro, Pierre Nougaro, excellent chanteur d'opéra. Et celle qui jouait le rôle de Tosca s'appelait Raymonde Lapeyre. Et elle s'est bien élancée, mais elle a rebondi 3 fois sur des trampolines qu'on avait installées derrière le décor, qui étaient censées l'accueillir, accueillir sa chute. Et elle est remontée 3 fois, le public a explosé de rire. On ne sait pas si ce soir-là, elle a été bissée.
Très très bon cette anecdote. On aurait évidemment aimé être là pour pouvoir nous aussi rire, alors qu'effectivement Tosca, c'est vraiment un drame.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, mais là la chute était un petit peu plus humoristique.
Absolument. Dites-moi, Christian Morin, avez-vous des dates de concert? Nous pourrions vous applaudir à la clarinette.
Alors oui, j'ai quelques dates à vous donner. Le 25 juin, je donne un concert à Longueville, c'est dans le nord, près de Valenciennes. Le 8 juillet, je serai à Cambrai pour un autre concert, et ensuite, toujours au mois de juillet, je pars le 24 au matin pour un concert que je donnerai le soir à Béziers, à côté de Béziers exactement, et ensuite le 27, dans le cadre d'un festival de musique et de théâtre, je serai à Jarnac, à côté de Cognac, en Charente. la Charente que vous connaissez bien, je crois.
Absolument. Eh bien, merci pour ces dates. Nous allons maintenant vous libérer, Christian Morin. Il me reste évidemment à vous remercier d'avoir passé ce très bon moment avec nous sur les ondes d'IDFM Radio. Bonne journée et bonne nuit du piano. Je le rappelle, demain, vendredi 10 juin à 21h, en l'église de Saint-Denis de Méry-sur-Oise, dans le cadre de ce très beau festival d'Auvers-sur-Oise, ce concert que vous présenterez.
Merci beaucoup Christophe Graveau, j'ai été ravi de passer ces quelques minutes en votre compagnie et en compagnie de la musique. Passez une bonne fin de journée et à très très bientôt.
À très bientôt à vous aussi Christian Morin. Pour réserver leur place, nos auditeurs peuvent téléphoner au 01 30 36 77 77 ou par email billetterie@festival-auvers.com. ou bien encore sur les lieux de concert, une heure avant chaque représentation. Revenons sur la programmation du Festival d'Auvers-sur-Oise avec ce soir, ce jeudi 9 juin à 21h, dans l'église Saint-Denis de Méry-sur-Oise, Lucas de Bargue, un poète du piano, qui jouera des œuvres de Bach, Schumann, Fauré, Scriabine et Régis Campo. Écoutons-le dans Ondine, c'est le premier mouvement de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Maurice Ravel, c'était Ondine, premier mouvement de Gaspard de la Nuit par Lucas de Bargue, qui se produira ce soir dans l'église de Méry-sur-Oise dans le cadre du festival d'Auvers-sur-Oise. Continuons à feuilleter le programme de ce festival et arrêtons-nous sur le concert du jeudi 23 juin à 21h à l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Le prodige Alexandre Kantorov, premier français à avoir remporté à 22 ans le premier Grand Prix du concours Tchaïkovski. Et depuis, toutes les portes se sont ouvertes pour ce magnifique artiste. Il interprétera le concerto de Chostakovitch avec l'orchestre de chambre de Bâle, dirigé par Baptiste Lopez. Le voici dans l'Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns. Il est accompagné par son père, Jean-Jacques Kantorov, qui dirige le Tapiola Sinfonietta.
Thank you.
c'était Alexandre Kantorov dans le deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns avec le Tapiola Sinfonietta sous la baguette de son père Jean-Jacques Kantorov pour illustrer le concert qu'il offrira au public du Festival d'Auvers-sur-Oise le jeudi 23 juin dans l'église d'Auvers-sur-Oise. Et le jeudi 30 juin, ce sera le concert de clôture avec Renaud Capuçon, accompagné par l'orchestre du Festival d'Auvers-sur-Oise, dirigé par l'excellent Nicolas Krause. Un programme absolument somptueux, avec la symphonie concertante pour violon et piano de Mozart et le célébrissime et merveilleux concerto numéro 2 en mi mineur de Félix Mendelssohn. Écoutons Renaud Capuçon dans le final du troisième concerto pour violon de Camille Saint-Saëns avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la baguette de Lionel Bringuier. C'était le final du troisième concerto de Camille Saint-Saëns par Renaud Capuçon, qui sera l'invité exceptionnel du concert de clôture du 41e Festival d'Auvers-sur-Oise le jeudi 30 juin à 21h en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Eh bien, c'est avec Renaud Capuçon et Saint-Saëns que vient de se refermer notre émission, qui, je pense, vous aura donné l'envie d'assister au très beau concert proposé par le Festival d'Auvers-sur-Oise dans son opus 41. Quant à moi, Christophe Gravrot, je serai ravi de vous retrouver très vite pour une nouvelle balade musicale. Merci encore à Christophe à la technique et bien sûr, restez tous à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio.